vous écoutez le podcast de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbassabois, fondateur de la mission TNR internationale, comptant plus de 3000 membres actuellement et auteur du célèbre livre sur le leadership « Comment devenir un bon berger de famille de croissance ». Excellente écoute chez vous.
Alors, je m'en vais lire avec vous. Deux Rois, chapitre 13, verset 14 à 20. Il est écrit. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Yes. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Pleura sur son visage et dit, mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre de l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance. Oh, il y a des flèches de délivrance de la part de l'Éternel. C'était un acte prophétique. Ouvre la fenêtre. Allez, tire. Tire une flèche. Et le roi a tiré une flèche. Et Élisée lui dit, voici une flèche de délivrance. Il y a des flèches de délivrance. Je demande maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, à l'endroit où vous vous trouvez, que tous ceux qui vont avoir un cœur ouvert, tous ceux qui pourront faire un don quelconque, je dis un don quelconque de l'endroit où vous vous trouvez, recevez une flèche de délivrance. Recevez une flèche de délivrance économique. Recevez une flèche de délivrance pour le mariage. Recevez une flèche de délivrance pour la stabilité financière. Une flèche de délivrance pour un emploi particulier avec un bon salaire. Recevez une flèche de délivrance parce que vous avez initié un dossier quelque part qui tarde, n'est-ce pas? On tarde à vous appeler. Recevez une flèche de délivrance maintenant. Une flèche de délivrance, de guérison. Alors faites un don et recevez cette flèche. Je dis, faites un don quelque part. Faites un don pour ce culte médical et recevez une flèche de délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, les flèches de délivrance existent. Les flèches de délivrance. Le Saint-Esprit peut tirer une flèche de délivrance sur vous. Une flèche de guérison. Une flèche de guérison. Miracle dans votre vie. Alors que je vous vois faire un don. Je vous vois faire un don, un don, un don que vous n'aviez pas prévu. Je vous vois faire un don de cœur. Pour cette... Vous savez comment faire. Vous pouvez appeler les comptables. Vous pouvez passer par les comptables pour pouvoir envoyer votre don. Et une flèche mystérieuse de délivrance. Oh, calme. Marée gauche. Vous serez envoyé. Vous avez eu l'habitude de recevoir des flèches du péché. Vous avez des fois eu des flèches des fusils nocturnes. On vous a envoyé des flèches de la mort, des flèches de la tristesse. Vous vous réveillez triste. Vous avez reçu des flèches du découragement. Mais là, je vous parle d'une flèche de délivrance. Une flèche tirée par la puissance du Saint-Esprit. Une flèche qui ne va pas vous rater. Peu importe l'endroit où vous serez, une flèche qui amène la vie de Dieu en vous. La vie de Dieu en vous. Une flèche, oh Kayabarabara. À travers cette flèche, vous recevrez une idée géniale. Dieu vous donnera l'accès à un terrain. L'accès à un terrain, l'accès à une maison. Une flèche qui va vous mettre au-dessus de vos soucis. Le miracle de Dieu maintenant dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Marebo Shakayabaya. Une flèche de délivrance contre la Syrie. tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends le reste des flèches. Oh, Joas, prends le reste des flèches. Je sens comme si j'ai besoin de flèches. Prends le reste des flèches. Il les prit, le roi a pris le reste des flèches. Et Élisée lui dit, Élisée lui dit au roi, frappe contre terre, frappe le reste des flèches. Donc il a pris le reste des flèches, il a commencé à frapper le reste des flèches à terre. Voyez-vous, on la cache, vous savez, je suis depuis ce matin en train de prier. J'étais à la prière de 5 heures. Pour ceux qui ne prient plus à 5 heures, je vous rappelle que nous étions à la prière de 5 heures aujourd'hui. Nous serons à la prière de 5 heures samedi matin, parce que ce sera l'avant-dernier jour encore du culte médical. Et donc, je voudrais vous inviter, vous qui ne priez plus à 5 heures, vous qui n'aimez plus Jésus, vous qui n'aimez plus le Seigneur, vous qui marchez librement du côté de Satan. Parce que ceux qui abandonnent le Seigneur se mettent du côté de Satan. Et quand vous abandonnez la prière, vous abandonnez le jeûne, vous abandonnez l'offrande, vous abandonnez la dîme, vous abandonnez l'évangélisation, ça veut dire que vous vous mettez du côté de Satan. Et depuis ce matin que nous sommes en train de prier, j'ai un fort sentiment dans mon cœur. Je suis en train de voir comment Satan est en train de posséder. Vous savez, quand vous n'avez plus de pasteur, vous êtes une brebis livrée à elle-même. Et je vois beaucoup de chrétiens qui n'ont plus de pasteur. Beaucoup de chrétiens qui ne vivent plus de la voix du pasteur. Parce qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Mes brebis cherchent ma voix. Les brebis d'un pasteur cherchent la voix du pasteur. Les brebis d'un pasteur veulent l'écouter. Ils veulent savoir s'il a prêché. Ils veulent savoir s'il a un enseignement. Si Dieu lui a dit quelque chose, mon Dieu. Mais je vois que beaucoup de chrétiens, même dans Véler, n'ont plus de pasteur. Ils n'ont plus de pasteur. Et quand vous n'avez plus de pasteur, vous vivez de vos pensées, de vos idées, de vos réflexions, de vos peurs, de vos craintes, de vos murmures, de vos faux raisonnements, de vos erreurs d'interprétation. Vous croyez que Dieu a dit ça alors qu'il n'a pas dit. Vous comprenez mal les Écritures. Et puis Satan joue avec vous parce qu'il sait que vous n'avez plus de pasteur. Et je sais que pour moi, je sais que je ne suis plus le pasteur de beaucoup de gens. Parce que les gens vivent leur vie comme ils veulent. Ils vivent leur foi comme ils veulent. Ils ne cherchent plus à entendre la voix du pasteur. La voix de l'homme de Dieu. La voix de celui par qui Dieu sort. Dieu nous oriente. Les disciples, les apôtres avaient un pasteur. Yes. Le peuple d'Israël, au sorti de l'Égypte, avait un pasteur. Yes. David était le pasteur du peuple d'Israël. Dans la Bible, Dieu a toujours encadré son peuple. Néhémie était le pasteur. Yes. Oh, carrière. Esdras était le pasteur. Oh Seigneur. Paul était le pasteur de toutes ces églises de Corinthe, hein, Éphèse, et Philippe, toutes ces choses. Paul était le pasteur. Il y a des gens, ils vivent leur foi eux-mêmes. Ils font comme ils veulent. Ils pensent comme ils veulent. Ils agissent comme ils veulent. Ils n'ont plus besoin d'une voix divine. Oh. Et dans mon cœur, je pleure parce que je vois comment ces personnes sont en train de vouloir détruire peut-être les dernières années de leur vie. Ils vivent sans la voix d'un pasteur. Ah, Seigneur, sauve. Et donc Joas il avait son pasteur. Joas avait la voix de son avait son pasteur Élisée. Mais le problème de Joas, c'est que il n'avait pas écouté, il n'avait pas l'esprit de son pasteur. Joas n'avait pas l'esprit. Il a dit, mon fils, prends le reste des flèches. Tu prends une flèche, tu dis la flèche, la flèche prophétique. Une flèche de la prophétie. Une flèche prophétique maintenant dans ta vie. Et le reste des flèches, mon fils, frappe sa terre. Le roi a pris le reste des flèches. Vous savez ce qu'il a fait? Il a frappé une fois. Il a frappé deux fois parce que, voyez-vous, Quand vous êtes debout, on vous demande de frapper des flèches à terre. Vous devez bien comprendre que pour frapper des flèches à terre, vous devez vous courber ou vous asseoir. Et donc le roi était certainement courbé. En tant que roi, il ne voulait pas rester longtemps courbé. Il ne voulait pas rester longtemps peut-être assis. Il s'est courbé et puis il a frappé une fois, il a frappé deux fois, il a frappé trois fois. Et donc, il frappa trois fois. Et le texte dit, et s'arrêta. Il a frappé trois fois des flèches et s'arrêta. L'homme de Dieu, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit l'homme de Dieu. Dans ma Bible, c'est écrit l'homme de Dieu. C'est écrit dans ma Bible. Oh, je sais que tu n'as plus d'homme de Dieu. Mais dans ma Bible, c'est écrit que Élisée en face de Joab était l'homme de Dieu. Joab était un croyant. Joab connaissait l'Éternel. Joab a vécu avec l'Éternel. Mais il avait son homme de Dieu. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. L'homme de Dieu s'est mis en colère. L'homme de Dieu s'est mis. Vous savez, il y a des gens, il y a des croyants, ils sont même plus capables de savoir quand l'homme de Dieu se met en colère contre leur attitude. L'homme de Dieu se met en colère contre ta manière de faire, ta manière de servir Dieu. Ce laxisme, tu abandonnes le Seigneur. Comment peux-tu abandonner le Seigneur? Comment peux-tu abandonner le service du Seigneur? Comment peux-tu abandonner la dîme? Abandonner le franc, abandonner le soutien. Comme tu as abandonné la prière, mais tu abandonnes notre Seigneur. Pourquoi? Pourquoi tu abandonnes le Seigneur? Pourquoi tu abandonnes le Seigneur? Pourquoi tu as abandonné ton culte personnel? Hein? Mes enfants qui sont en France, pourquoi abandonnez-vous le Seigneur après l'avoir servi au Gabon? Mes enfants qui sont en France, pourquoi abandonnez-vous le Seigneur après avoir été pasteur à l'église? L'homme de Dieu se mit en colère. Vous savez, parents, vous les parents dont les enfants abandonnent le Seigneur, le Seigneur vous demandera des comptes comme il a fait avec Élie. Parlez à vos enfants qui abandonnent le Seigneur. Parlez à vos enfants qui refroidissent. Il est écrit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Quand on te cherche dans l'église, quand on te cherche parmi les saints, ça veut dire que tu as abandonné l'église. Ça ne veut rien dire d'autre. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours, pas chaque année, tous les jours de ma vie. Donc quand un groupe de chrétiens vous cherche parmi les saints, ne trouvez pas des raisons. Ne prenez pas les gens pour des stupides. Les gens ne sont pas idiots. Ne prenez pas. Quand vous cherchez, c'est que vous n'êtes plus bien chrétien. Quand vous cherchez, vous avez refroidi. Quand vous cherchez, c'est que vous n'avez plus Dieu. Quand on vous cherche, c'est que Dieu a pris une seconde place. Dieu est passé derrière votre travail, derrière vos études, derrière votre copinage, derrière votre fiançaille, derrière votre stage. Dieu, vous avez mis Dieu derrière. Dieu, mets-toi derrière. Dieu, fous le camp, mets-toi derrière. Vous avez dit à Dieu, fous le camp. Vous avez chassé Dieu. Vous l'avez mis derrière votre stage. Vous avez mis Dieu derrière votre fiançaille, votre mariage, derrière votre bébé. Vous avez chassé Dieu. Alors ne prenez pas des gens pour n'importe qui. Nous savons quand un chrétien refroidit. Nous savons quand un chrétien refroidit. Nous savons quand un chrétien refroidit. Nous savons quand un chrétien refroidit, quand il n'aime plus Dieu. Arrêtez de trouver des fausses raisons. Quand les chrétiens vous cherchent, peu importe ce que vous faites, que ce soit un travail, un stage, des études, n'importe quoi, quand les chrétiens vous cherchent, c'est que vous êtes détourné de Dieu et vous avez dit à Dieu, Dieu, fous le camp. Dieu, je m'en fous de toi. Dieu passe après mon stage. Dieu passe après mon travail. Dieu passe après mes études. Dieu passe après mon mariage. Dieu, je ne t'aime plus, j'aime ma femme. Dieu, je ne t'aime plus, j'aime mon mari. Dieu, je ne t'aime plus, j'aime la construction que je vais faire en ce moment. Dieu, Dieu, mets-toi derrière. Et un jour, vous serez en face de Dieu. Et il vous le dira. Lui aussi vous dira, mon fils, tu m'as mis derrière ton stage. Tu m'as envoyé derrière tes études. Mon fils, tu m'as humilié. Tu t'es moqué de moi. Mon fils, toi aussi, éloigne-toi de moi. Dieu aussi te le dira. Alors l'homme de Dieu s'est mis en colère. Il s'est mis en colère contre son fils spirituel, contre le roi Joas. Oh, et il lui a dit ceci. Il fallait frapper 5 fois. Il fallait frapper 6 fois. Il fallait frapper plusieurs fois. Alors, tu aurais battu le Syrien jusqu'à leur extermination. Il fallait. Mais c'est quoi, mon Dieu? Je t'ai demandé de frapper les flèches, même si tu es un roi, même si tu es allé en France. Même si tu es allé en France. Il faut continuer à frapper les flèches. Il faut continuer à frapper les flèches. Peu importe où tu es parti, il faut continuer à frapper les flèches. Ayaka shakayaba sotara mandara ko shakayaba. Vous savez, papa, maman, Dieu a exterminé toute une famille. Quand les enfants ont mis Dieu de côté et que ce n'était pas grave pour les parents. Quand les enfants ont mis Dieu de côté et que ce n'était pas grave pour les parents, Dieu a exterminé toute une famille jusqu'au bébé. Tout le monde est mort parce que les enfants ont mis Dieu de côté. Ils étaient au temple, hein? Finé. Hein? Ils étaient au temple. Ophni et Finé. Ophni et Finé étaient toujours au temple, mais ils n'étaient plus bien sérieux. Et leur papa était incapable de remarquer qu'ils n'étaient plus sérieux. Les enfants peuvent toujours faire semblant de prier. Ils vous disent qu'ils prient toujours. Ils vous disent qu'ils sont au Sénégal, ils prient toujours. Ils vous disent qu'ils sont au Maroc, ils prient toujours. Ils vous disent qu'ils sont en France. Mais c'est faux! C'est faux! C'est faux! Ils ne sont plus sérieux. Ils ont dit à Dieu, Dieu flouquant, mets-toi derrière. Dieu, mets-toi derrière. Alors, Élisée a dit, mais mon fils, c'est quoi? C'était un roi. Le roi Joas. Élisée a dit, tant pis, peu importe qui tu es. Quand on vous dit de faire, il faut écouter l'homme de Dieu. Il faut écouter ce qu'on te dit, mon Dieu. Même si tu es un roi, tu ne comprends pas qu'on te parle. Avant d'être roi, tu n'es pas un croyant. Attends, avant que tu ne sois roi, tu n'es plus croyant. On te dit de frapper les flèches. C'est quoi ton problème, Joas? L'homme de Dieu fut irrité. L'homme de Dieu fut irrité. Et voilà ce que Bishop Dan, mon père spirituel, dit. Il dit, Élisée était contre le roi Joas parce qu'il aurait pu frapper les flèches contre terre 5 ou 6 fois ou plus. Mais il ne l'a pas fait. Il a frappé que 3 fois. Si seulement il avait frappé contre terre un peu plus, il aurait une victoire beaucoup plus grande. Kai, les beaux satans. Le roi Joas est l'exemple par excellence d'une personne, n'est-ce pas, qui aurait pu se surpasser. Le roi Joas représente ceux qui peuvent se surpasser. Mais qui ne se surpasse pas. Oh, 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 on connaît ces gens-là. Quand c'est le sport, quand c'est les femmes, quand c'est les hommes, quand ce sont les études, quand c'est le travail, et quand c'est les réseaux sociaux, ils se surpassent. Quand c'est des choses humaines, quand c'est des cérémonies, quand c'est les fêtes, et quand c'est des voyages, quand ils doivent aller faire leurs choses, ils se surpassent là, on les voit. Mais quand c'est pour le royaume de Dieu, quand c'est pour le royaume de Dieu, il frappe deux fois. Il prie un peu. Quand c'est pour Dieu, ils font comme s'ils sont fatigués. Quand c'est pour Dieu, ils manquent d'énergie et de volonté. Quand c'est pour eux, quand c'est pour la politique, quand c'est pour la tontine, quand c'est pour des intérêts personnels, quand c'est pour leurs enfants, oh, quand c'est pour leurs choses, quand c'est pour leur maison, là, ils sont comme des lions, ils sont comme des serpents noirs. Quand il s'agit de leurs choses, là, ils se rappellent, ils n'oublient pas. Mais quand c'est pour Dieu, oh Seigneur, quand c'est pour toi, là, il tape les flèches une fois. Il tape les flèches deux fois. Il tape les flèches trois fois. Puis il dit, c'est pas fini. C'est pas fini, non? Mais quand c'est pour toi, même tu ne demandes pas, c'est fini. Quand c'est pour toi, tu n'oublies pas. Hein? Le roi, c'est l'exemple par excellence d'une personne qui aurait pu se surpasser. Quelle différence y a-t-il entre frapper trois fois et frapper dix fois? La différence semble être minime, mais dans le monde invisible de l'esprit, frapper dix fois a plus de puissance, de grâce, d'obéissance, de vérité que frapper trois fois. Le roi Ojas devait savoir que dans le monde de l'esprit, frapper trois fois, s'humilier trois fois, c'est différent de s'humilier 15 fois. Oh, kaya baya baya baya. Aujourd'hui, il est possible d'accomplir beaucoup de petites choses qui peuvent faire une grande différence. Yes, dans l'effort global visant à construire le royaume de Dieu. Un effort supplémentaire de son temps. Accorder plus de temps, encore un peu plus de temps. Accorder un peu plus d'argent peut faire une énorme différence. Yes, dans le royaume de Dieu, continuer à prier peut faire une énorme différence. Dans le royaume de Dieu, faire un peu plus peut sauver la vie des milliers de gens. Faire un peu plus peut sauver la vie des milliers de gens. Je suis convaincu que l'apôtre Jean a dû lire l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Le quatrième évangile. Jean, qui a écrit le quatrième évangile, a lu l'évangile de Matthieu. Il a certainement lu l'évangile de Luc. Il a certainement lu l'évangile de Marc. Il aurait pu se dire, il n'est plus nécessaire d'écrire sur la vie de Jésus, puisque Matthieu a déjà écrit, Marc a déjà écrit, Luc a déjà écrit. Alors pourquoi écrire encore sur la vie de Jésus? Cependant, il a décidé de se mettre à la tâche. Un effort supplémentaire dans le ministère. Un effort supplémentaire. Faire un peu plus. Vous savez, nous étions en train de prier. Ou toujours parler aux gens et dire aux gens, sortez de refroidissement. Le fait de ne plus aimer Dieu, pourquoi vous n'aimez plus Dieu? Il vous a fait quoi? Dieu t'a fait quoi? Papa, maman, délégué, Dieu vous a fait quoi? Vous avez diminué votre investissement en prière, en travail. Dieu vous a fait quoi? Pasteur constaté, Dieu t'a fait quoi? Missionnaire, Dieu vous a fait quoi? Vous ne l'aimez plus, il vous a fait quoi? Jésus vous a fait quoi? Jésus. Seigneur, Jésus vous a fait quoi? Est-ce que je dis, qu'est-ce qu'il vous a fait, mon Dieu? Jésus vous a fait quoi? Hein? Vous les responsables des comités, Jésus vous a fait quoi? Jésus vous a fait quoi? Il est écrit que l'amour d'un grand nombre refroidira. Vous, les signes sont là, ça se voit. Jésus vous a fait quoi? Vous n'invitez plus les gens à l'église. Vous ne prêchez plus l'évangile. Vous n'avez plus soif d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. Vous ne suivez plus aucune âme. Jésus vous a fait quoi? Seigneur. Alors Jean aussi pouvait se dire, non, mais ils ont déjà écrit, je n'ai plus besoin. Non, Jean n'a pas fait ça. Il n'a pas fait cela. Grâce à l'écrit de Jean, l'apôtre Jean, nous apprenons des histoires que si Jean n'avait pas écrit, si Jean n'avait pas écrit, je ne saurais pas qu'un homme qui est mort depuis 4 jours, un homme comme Lazare, dont le corps est complètement décomposé, peut revenir à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Si Jean n'avait pas écrit, si Jean n'avait pas écrit, je ne saurais pas qu'il y a la guérison par la grâce, même sans la foi. Mais oui, il y a des guérisons par la foi, il y a des guérisons par la grâce. L'homme de la piscine de Bethesda n'a pas cru. Il est bénéficiaire d'une guérison gracieuse. Oh, alléluia. Une guérison où la grâce vous localise et la grâce vous guérit. Jean a écrit, l'homme qui était malade depuis 38 ans. Vous savez, si Jean n'avait pas écrit, on ne saurait pas ça. On ne saurait pas qu'il y avait un ange qui descendait. Un homme, Dieu envoie des anges. Il envoie des anges qui descendent et qui portent des guérisons. Des anges qui descendent une fois par trimestre, qui descendent une fois par année et qui portent la guérison quelque part. Si Jean n'avait pas écrit, on ne le saurait pas. Jean a fait un effort supplémentaire. Oh, Jean s'est dit non. Mais tu as écrit, Luc a écrit. Non, je vais quand même écrire. Je vais faire. Même si tel a déjà fait, moi aussi je vais faire. Oh, est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des gens qui aiment encore Jésus? Pourquoi vous n'aimez plus Jésus? Il vous a fait quoi? Pourquoi vous vous dites, tel a fait, tel va faire, moi je ne fais pas? Puisque tel va faire. Mais pourquoi tu penses que les autres vont faire? C'est toi qui dois faire. Pourquoi tu penses qu'il va avoir ce culte? Il va avoir ce mariage? Il va avoir ce séminaire? Les gens vont donner. Les gens vont payer les chèques. Mais c'est faux. Pourquoi tu penses que les autres? C'est toi! Pourquoi tu penses que ce sont les autres? Mais c'est toi, même si les autres ont fait. Mais toi, ta partition, ta participation, ton effort peut tout changer. Ah, Seigneur. Alors, Jean a amené son effort supplémentaire. Et à cause de Jean, nous savons qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. C'est à cause de Jean que nous savons que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir. Marébauche. C'est pas écrit dans Marc. Hein. C'est pas écrit dans Matthieu. C'est Jean. Jean a eu raison lui aussi d'écrire. Jean a fait un effort supplémentaire. Jean a fait des poisons. Si Jean n'avait pas écrit, oh Seigneur, si Jean n'avait pas écrit, je ne saurais pas qu'il était écrit. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Si Jean n'avait pas écrit, je ne saurais pas que Dieu m'a aimé, m'a tant aimé. Vous qui avez arrêté de donner, de soutenir, de prier, vous qui avez arrêté de prier à 5 heures. Vous qui avez arrêté de jeûner, vous qui pensez que les autres font déjà, oh mon Dieu Seigneur, vous privez l'Église, vous privez le royaume de Dieu. Au fond, vous boycottez le royaume de Dieu. Vous qui pensez que même si vous ne donnez pas, ce n'est pas trop grave. Vous qui retirez votre participation, vous qui retirez votre partition, vous qui estimez que on ne saura pas que je n'ai pas fait, on ne saura pas que je n'ai pas donné, vous êtes des criminels, vous êtes mauvaises. Vous cherchez à gaspiller l'œuvre de Dieu. Vous voulez que l'œuvre de Dieu s'arrête. Mais si Jean n'avait pas écrit, mais si Jean s'était dit, Matthieu a déjà écrit, Marc a déjà écrit, Luc a déjà écrit. Luc était un médecin. Hein? Jean pouvait se dire non. Le troisième à écrire, c'est Luc. Luc était un grand médecin, un intellectuel. Je ne peux pas écrire après lui. Luc a fait des recherches. Pourquoi je vais écrire après lui? Si Jean, l'apôtre Jean, pensait comme beaucoup d'entre nous, ah Seigneur, je ne saurais jamais que la nouvelle naissance existe. Vous ne saurez jamais que la nouvelle naissance, parce que c'est Jean qui parle de la nouvelle naissance. C'est Jean qui parle de la nouvelle naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut rentrer ni voir le royaume de Dieu. Oh Kayaba Shakayabarabara. Oh Seigneur, sauve l'église de ces chrétiens qui ont retiré leurs mains. Ils ont retiré leurs mains. Ils ne participent plus. Ils ne prient plus. Ils ne jeûnent plus. Quand nous prions, eux, ils dorment. Ils dorment pourquoi? C'est quoi? Dieu t'a fait quoi? Tu ne l'aimes plus comme avant. Il t'a fait quoi? Tu n'aimes plus Dieu comme au début. Dieu t'a fait quoi? On te parle, tu ne te réveilles pas. On te parle. Une voix te dit que tu as trop fait pour Dieu. Une voix te dit que tu as trop travaillé. Mais c'est faux. C'est faux. Compte tes œuvres. Compte tes œuvres. On peut compter les habits qu'on a. On peut compter les chaises qu'on a à la maison. On peut compter les paires de chaussures. Moi, je peux compter mes chapeaux. On peut compter quoi? La vaisselle, les ustensiles. On peut compter les choses. Si tu veux donner raison à Satan, qui te fait croire que tu travailles depuis pour Dieu, tu as tellement investi pour Dieu, tu es un ancien, tu es un diacre, tu es un pasteur, tu es un évêque. Compte tes œuvres. Mais compte tes œuvres, tu te rendras compte que tu n'as rien fait pour Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous chassons cette pensée démoniaque. Voyez-vous, nous étions en train de prier à cause du contre le refroidissement. Et pendant qu'on priait contre le refroidissement, on se dit, mais pourquoi les gens n'aiment plus Dieu? Pourquoi les gens ne donnent plus? Pourquoi les gens ne prient plus? Pourquoi les gens ne jeûnent plus? Pourquoi les gens ne viennent plus à l'église? Mon Dieu, les gens abandonnent la maison du Seigneur. Et là, pendant qu'on est en train de prier, pourquoi l'amour des gens diminue? Par le grand refroidissement. Et pendant qu'on priait, c'était un peu comme une opération chirurgicale. Quand on a ouvert dans l'esprit, on a trouvé à l'intérieur que une des raisons pour lesquelles les gens ne se donnent plus, les missionnaires sont en train de dormir avec leurs femmes, les missionnaires sont sur les réseaux sociaux, sont en train de rire, ils sont plus sur le terrain de l'évangélisation. On s'est rendu compte que c'est parce que une voix leur dit qu'ils ont beaucoup travaillé pour Dieu. Quand on a ouvert dans l'esprit le chrétien, le cœur du chrétien qui n'aime plus Dieu, quand on a ouvert le cœur du pasteur qui n'aime plus Dieu dans l'esprit, à l'intérieur, on a trouvé une forte pensée démoniaque qui disait, tu sers Dieu depuis longtemps. Tu as trop fait pour lui. Tu as trop investi pour lui. Tu t'es trop sacrifié pour lui. Et on s'est rendu compte que Satan a déposé dans le cœur des missionnaires, le cœur des pasteurs, le cœur des chrétiens, des baptisés, le cœur, mon Dieu, les vieux, les vieilles, le cœur des personnes de l'église. Satan a déposé dans le cœur de beaucoup de gens pendant qu'ils dormaient. Pendant que les gens dorment, il vient dans le cœur et il dépose une pensée satanique, une pensée démoniaque qui fait croire aux gens qu'ils ont beaucoup évangélisé. Ils ont trop évangélisé. Ils ont trop sauvé des gens. Ils ont trop fait des campagnes. Ils ont trop donné. Ils ont enrichi Dieu. Et on a rendu compte que, mais comment Satan peut faire croire aux gens ça? Mais c'est pas vrai. Mais mon Dieu, mais c'est pas vrai. Et là, on a compris ce qui était le moteur du refroidissement. Le moteur du refroidissement, c'est qu'il y a un mensonge démoniaque dans le cœur de plusieurs chrétiens. Que Satan a déposé dans la nuit. Quand il dort, Satan est passé quand il dort. Il a déposé par des démons la pensée selon laquelle ils servent Dieu depuis longtemps. Ils ont tout investi. Ils ont donné des terrains, ils ont donné des maisons, ils ont consacré des voitures, ils ont investi tout. Ils ont tout fait pour Dieu et maintenant, ils peuvent se reposer. Quand j'ai vu ça dans l'esprit, quand j'ai vu cette pensée dans le cœur que Satan a déposée, le feu brûle, Seigneur, brûle ce mensonge dans le cœur des secrétaires. Brûle ce mensonge, c'est un mensonge. Tu as fait quoi pour Dieu? Seigneur, tu n'as rien fait pour Dieu. Ton dernier souffle appartient à Dieu et à son travail. Qui t'a dit que tu as tellement travaillé pour Dieu? C'est faux, c'est un mensonge. Brûle cela à l'intérieur de toi. Brûle, je t'en prie, jeunes, les jeunes. Les jeunes, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait pour Dieu. C'est faux. Vous n'avez rien fait pour Dieu, ne vous reposez pas. Ne vous reposez pas, ne ralentissez pas. Ne ralentissez pas, c'est faux. Vous n'avez rien fait pour Dieu. Vous n'avez rien fait pour Dieu. Nous n'avons rien fait pour Dieu. Ah. Si Jean n'avait pas écrit, personne ne saurait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si Jean n'avait pas écrit, nous ne saurons pas que le Père et le Fils sont un, sont un. Si Jean n'avait pas écrit, nous ne saurons pas qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Si Jean n'avait pas écrit, nous ne saurions pas que nous ne sommes que des amis et que sans Jésus, on ne peut rien faire. Absolument rien faire. Et enfin, si Jean n'avait pas écrit, nous ne saurons pas que si tu m'aimes, t'aimes mes bébés. Nous ne saurons pas que l'amour de Dieu se manifeste par les familles de croissance. C'est parce que Jean a écrit que chaque chrétien doit avoir sa famille de croissance. La preuve qu'il aime Jésus. Ouh, la preuve que vous aimez Jésus, c'est vos familles de croissance. La preuve que vous aimez Jésus, ce sont vos familles de croissance. Tous ceux qui n'ont pas de croissance n'aiment pas Jésus. Tous ceux qui ne partagent pas leur foi dans une famille de croissance n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Oh. Tu peux faire un peu plus. Tu peux te réveiller du sommeil et brûler ce mensonge que Satan a mis dans ton cœur pendant que tu dormais. Même toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu refroidis, c'est parce que dans ton cœur, dans l'esprit, nous, on est rentré dans l'esprit, dans ton cœur. On a fouillé dans l'esprit des croyants qui diminuent. Ils diminuent leur soutien, leur offrande, leur dîme, leur prière, leur temps de jeûne. Ils diminuent leur lecture de la Bible, leurs évangélisations, leur passion des âmes. On a fouillé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi plusieurs sont comme ça? Et en fouillant dans l'esprit, on a vu que Satan a conforté les gens. Par un mensonge. Il a conforté les gens par un mensonge. Qu'il dépose dans la nuit quand les gens dorment. Maré, Maroso Kataya, Maripaya Katarebo Secretaire de Mise, Lakashakaya, je n'ai rien fait pour toi. Je ne t'ai pas encore servi. Je n'ai rien bâti pour toi, Seigneur. Je n'ai pas encore envoyé des missionnaires. Je n'ai pas encore sauvé des âmes. Je n'ai pas encore prêché à des foules. Je n'ai encore rien fait, Seigneur. Je n'ai pas encore bâti des églises. Je n'ai rien fait. Je n'ai encore rien investi pour le royaume. Sauve-moi du diable. Sauve-moi du diable. Sauve-moi du diable. Oh! Sauve-moi du diable. Mais aussi, Jean n'avait pas écrit, nous ne connaissons pas l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue. Hein? Luc plutôt. Là maintenant on est avec Luc. Si Luc n'avait pas écrit, nous ne saurions même pas que l'histoire de Luc prodigue existe. Hein? Luc, s'il n'avait pas écrit. Est-ce que vous savez que si Luc n'avait pas écrit, si Luc disait non, Matthieu a déjà écrit, Marc a déjà écrit, c'est tout, je l'ai écrit. Si Luc n'avait pas écrit, est-ce que vous savez que nous ne devions pas connaître l'histoire de Lazare, le pauvre et le riche? L'une des seules histoires qui nous parle de l'au-delà, après la mort, ce qui se passe après la mort, c'est l'une des seules histoires de la Bible où on a une idée de ce qui se passe après la mort. Si Luc pensait, comme beaucoup d'entre nous pensent, que ces gars, ils sont déjà, ça fait 15 ans qu'ils sont à l'église, même avant d'être dans Bel Air, ils étaient d'abord ailleurs, plus Bel Air, 3 ans, 4 ans plus Bel Air, plus 15 ans à l'église Jérusalem, 15 ans plus 4 ans, ça fait 19 ans. Oh mon Seigneur, j'étais trop servi. J'étais trop servi. Ça fait beaucoup de temps que je te sers. Je peux maintenant regarder les réseaux sociaux, suivre les télévisions et puis donner un peu. Parce que celui-là, j'étais beaucoup servi. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Papa Dan dit ceci. Je crois que Dieu envoie un avertissement à la génération actuelle. Je crois que Dieu envoie un avertissement à la génération, à ces chrétiens actuels. Je crois que Dieu envoie un avertissement aux chrétiens de notre génération qui sont différents des autres chrétiens, des générations passées. Prenez garde. Il dit, prenez garde de ne pas vous reposer alors que vous deviez travailler. Prenez garde de ne pas vous reposer alors que vous devez travailler. Prenez garde de ne pas vous glorifier lorsque votre travail n'est même pas terminé. Faites attention. Faites attention à la retraite anticipée et au vieillissement précoce spirituel. Faites attention. Faites attention. C'est mon père, l'évêque Dac, sous l'onction de l'Esprit Saint qui parle. Faites attention à la retraite anticipée et au vieillissement précoce spirituel. Sauve-moi, Seigneur. Dieu, sauve-moi. Dieu, sauve-moi. Dieu, sauve-moi de croire que oh, j'ai accepté Jésus depuis l'âge de 15 ans, donc normalement, entre l'âge de 15 ans et maintenant, ça fait tant d'années, je sers Dieu depuis, je prêche l'évangile, c'est bon, je dois diminuer, je ne dois plus donner mes semences, je ne dois plus donner mes offrandes, ça fait des années que je donne, ça fait des années que j'ai aidé les gens, je dois un peu diminuer maintenant, un peu, sauve-moi, pitié Seigneur, sauve-moi, Dieu sauve-moi, pardon Dieu, sauve-moi. Je t'en prie, Dieu, sauve-moi. Dieu vous pose une question. Ne peux-tu pas fournir un effort supplémentaire? Dieu te pose une question. Ne peux-tu pas faire produire un effort supplémentaire? Ne peux-tu pas continuer comme tu as commencé? Ne peux-tu pas faire une autre église? Ne peux-tu pas donner un terrain? Ne peux-tu pas soutenir un mission? Ne peux-tu pas faire plus? Ne peux-tu pas faire plus? Un autre soutien? Une autre offrande? Ne peux-tu pas être fidèle l'année 2023 comme tu l'as été en 2018? Sauve-moi, Seigneur. Ne peux-tu pas encore donner ta dîme? Ne peux-tu pas encore donner ton soutien? Ne peux-tu pas encore jeûner une fois de plus? Une fois de plus. Jeûner. 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 Hein? Ne peux-tu pas jeûner vendredi? Vendredi à jeûne. Ne peux-tu pas jeûner vendredi, ce vendredi? Ce vendredi, c'est demain. Il y a un jeûne. Ne peux-tu pas jeûner un peu? Je sais que tu as trop jeûné et que Satan t'a dit que c'est toi qui as jeûné toute la terre. Satan t'a dit que c'est toi le plus grand jeûneur du monde. C'est toi qui as sauvé le monde par les jeûnes. Et que Satan t'a dit de jeûner. Mais s'il te plaît, je t'en supplie. Ne peux-tu pas jeûner encore une fois le plus? Je vois des gens attachés par l'offrande qu'ils ont fait. Je vois des gens attachés parce qu'un jour ils ont donné une dîme. Les gens sont attachés par Satan parce qu'un jour ils ont donné un terrain. Les gens sont attachés par Satan parce qu'un jour ils ont amené leur famille à l'église et leur famille s'est convertie. C'est bon. Ne peux-tu pas faire un peu plus? Je t'en prie. Je t'en supplie. Pour Jésus-Christ. Ne peux-tu pas faire un peu, encore un peu plus? Juste un peu. Mariba Shakaya Bayabayabanabanaboros. Un effort supplémentaire fera une grande différence dans l'œuvre de Dieu. Au cours de mes voyages, j'ai remarqué une triste tendance chez les chrétiens, les pasteurs et les ministres. Au cours de mes voyages, j'ai remarqué une triste tendance dans la vie des chrétiens, des pasteurs, des ministres. Beaucoup se contentent de ce qu'ils ont. Beaucoup se contentent de ce qu'ils ont. Ils ont déjà leur maison. Ils sont déjà mariés. Mais c'est fini. Hein? Les stagiaires en médecine. Hein? Mes fils et mes filles qui sont en stage en médecine. Non, c'est fini. Vous êtes mariés. Hein? Les stagiaires. Vous êtes mariés. C'est bon là. Hein? Hier j'ai fait la j'ai veillé, c'était moi qui étais à l'hôpital, j'ai fait la garde. Ce matin je peux aller à l'église parce que je suis fatigué. Hein? Donc je vais suivre le film en ligne. En ligne. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu n'étais pas comme ça. 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 Tu es abandonné, mon Seigneur. Tu es en train d'abandonner, mon Seigneur. Tu es en train d'abandonner, mon Seigneur. Tu es en train d'abandonner, mon Seigneur. Tu es en train d'abandonner mon Seigneur. Bishop Dagdi, une fois qu'un chrétien, un homme de Dieu, a de l'argent, une maison, une voiture, une église, il se contente de rester à ce niveau. C'est ça. Le titre de pasteur, le titre d'évêque, le titre de délégué, le titre de diacre, voiture, maison, les étudiants qui étaient engagés, qui étaient aux réunions, qui étaient là, dans la nation, les étudiants qui pleuraient devant le Seigneur, qui levaient les mains. Stage terminé. Il a commencé à travailler. Il n'a plus trop le temps. Non, c'est parce que je sors tard. Tardivement. Je vais voir. Oh. Oh Dieu d'Israël, le sauveur du reste. Toi, le sauveur du reste. Sauve-nous. Sauve-nous, nous te supplions. Il y a plusieurs années, alors que j'étais en Corée, j'ai entendu Yugi Cho dire que la clé pour la croissance de l'église est d'avoir une vision pour une plus grande église. Chose surprenante. la plupart des hommes de Dieu ne souhaitent pas vraiment avoir une grande église. Ils n'œuvrent pas pour la croissance de l'église. Ils ne travaillent plus dans le but de gagner beaucoup, beaucoup et beaucoup d'âmes. Ils ne font plus ça pour sauver les âmes. Ils ne sont plus pasteurs pour gagner beaucoup d'âmes. Ils ne sont plus pasteurs pour gagner beaucoup d'âmes. Cette génération d'hommes de Dieu, il dit, Papa Nagui, cette génération de ministres est responsable du déclin de l'église d'aujourd'hui. Cette génération, le genre des mamans d'aujourd'hui, le genre de femmes de Dieu d'aujourd'hui, le genre de jeunes chrétiens d'aujourd'hui, le genre d'hommes chrétiens aujourd'hui, l'époque là, les chrétiens de l'époque là, sont les responsables du déclin de l'église. Et même lui, Dieu, ne peux-tu pas faire un peu plus ou juste un peu? Est-ce que tu peux recommencer ce que tu avais fait la fois dernière là? Ce que tu avais fait la fois dernière, est-ce que tu peux faire ça juste? Tu peux refaire ça. Ce que tu avais fait pour Dieu là, si tu peux refaire encore. Ce que tu avais fait pour Dieu la fois dernière, s'il te plaît, je t'en supplie. Est-ce que tu peux refaire ça? Ce que tu avais fait pour Dieu. Dieu à ceux qui se disent nous allons bien, nous n'avons pas besoin d'argent, tout va bien. Voici la réponse de Dieu à ceux qui te disent cela. Tu ne sais pas que Dieu est malheureux et misérable, pauvre, aveugle et nu. Il continue en disant, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité, la honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. Dieu ne voit pas ce que toi tu dis que tu as fait pour lui. Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas que c'est beaucoup. Dieu ne voit pas que c'est beaucoup ce que tu dis que tu as. Dieu ne voit pas que c'est beaucoup. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour Dieu. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait pour Dieu. On n'a rien fait. Arrête. Satan t'a trompé. Il m'a trompé. Pendant que nous dormions, il est venu dans notre cœur. Il a mis cette pensée. Et cette pensée a engendré la fatigue. Cette pensée a engendré la lassitude. Cette pensée a engendré la lenteur. Parce que chacun a vu une pensée à l'intérieur de toi. Une pensée qui te dit que tu as beaucoup fait. Tu es là depuis. Tu t'es beaucoup investi. C'est toi le premier. Quand tu es arrivé, il n'y avait même pas encore les gens. C'est toi qui es. Regardez comment les radars. Regardez comment le radar a disparu. Regardez comment les prières. Hein? On a dit la prière, 30 minutes le matin. 30 minutes. 30 minutes le soir. 15 minutes à midi. Tu n'arrives même pas à prier 30 minutes à midi. Tu n'arrives même pas à prier 30 minutes à 18h. Oh mon Dieu Seigneur. Parce que Satan te dit non plus. Tu as trop prié dans ta vie. Tu as fait ça depuis des années. Laisse les autres faire ça maintenant. Arrête de faire ça, tu as toujours fait ça, tu t'es investi. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Mais c'est faux. Vous constaterez qu'il y a toujours un effort supplémentaire à fournir. Il n'est pas nécessaire de rester inactif et de dire, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Vous avez besoin de quelque chose. Vous n'êtes pas assez riche. Vous n'êtes pas assez stable. Et vous n'êtes pas assez en sécurité. C'est faux. Vous n'êtes pas assez en sécurité. Attention. 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 Oh rabaraka shabayabayabara. Je sais que vous avez construit l'église. Je sais que vous avez implanté une église. Je sais que vous avez soutenu un missionnaire. Je sais que vous avez donné un véhicule à l'église. Je sais que c'est vous qui avez acheté la toiture de l'église. Mais vous pouvez encore faire un peu plus. Vous pouvez encore faire un peu plus. Je sais que vous avez organisé le mariage d'un pasteur. Mais vous pouvez encore faire un peu plus. Yes. Je sais qu'à la croisade passée, vous avez fait un don à la croisade de l'évêque d'Ago Gabon. Mais vous pouvez encore faire un peu. Au lieu de vous reposer maintenant, pourquoi ne pas vous reposer plus tard quand vous allez mourir? Au lieu de vous reposer maintenant avec le Saint-Esprit dans votre corps, parlant en langue. Au lieu de vous reposer maintenant, pourquoi ne pas vous reposer un peu plus tard quand vous allez mourir? Vous pouvez faire un peu plus maintenant. Je sais que vous avez écrit des livres. Je sais que c'est à cause de vous que votre voisin s'est convaincu. Mais vous pouvez encore faire un peu plus. Pitié. Le ciel et moi, nous vous supplions. Le ciel et moi, nous vous supplions. Pitié. Dieu, Jésus et moi, nous vous supplions. Pitié, pitié. Réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous en supplie. Nous vous supplions. Pitié. Pitié, réveillez-vous. Reprenez l'amour que vous aviez. Vous pouvez encore faire un peu. Oh, Père, lorsque vous serez dans votre tombeau, vous souhaiterez pouvoir sortir pour construire les choses pour Dieu. Mais vous ne le pourrez plus. Lorsque vous serez couché dans le tombeau, vous voudrez sortir pour parler de Dieu aux autres. C'est pourquoi faites un peu plus maintenant. Nous vous supplions, pitié. Nous vous supplions. Satan est un menteur. Ce qu'il vous dit n'est pas vrai. Vous n'avez pas beaucoup servi en tant que secrétaire. Ce n'est pas vous qui avez écrit toute l'histoire de toute l'église. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à cause de vous que la musique de Dieu est répandue dans le monde entier. Chante. Les chants, je vous en prie, pardonnez-nous. Le ciel et moi, nous vous supplions les chants. Ce que Satan vous dit, que vous avez trop chanté, vous avez trop dirigé les cultes et que vous devez vous arrêter, c'est faux. Il vous ment. Pitié, nous vous supplions, reprenez votre amour. Recommencez à chanter. Recommencez à chanter. Dieu, avec le cœur. Avec la passion. Nous vous supplions. Nous savons que Satan a déposé. Beaucoup de croyants ont diminué. Ils ont leur donné leur amour, leur évangélisation, le suivi des âmes. Les chrétiens, ils ne veulent plus servir Dieu. Ils ne veulent plus aller à l'église. Ils ne veulent même plus faire des entretiens chrétiens. Ils sont comme s'ils sont fatigués. Ils ont trop fait pour Dieu. Ils ont trop fait pour Dieu. Ils ont trop fait pour Dieu. Nous vous supplions. Pitié. Je sais que vous êtes prospère et que vous avez financé l'œuvre de Dieu. Ne pouvez-vous pas faire un peu plus? Un peu plus. Pourquoi ne pas financer encore une autre œuvre, toujours de Dieu? Vous avez peut-être construit un édifice quelconque religieux. Vous avez contribué à quelque chose à hauteur de millions. On sait. On te demande pardon. Tu as donné un milliard, un million. Tu as donné 3 millions. Tu avais fait un don de ton salaire. On te demande pardon. On reconnaît que tu as fait ça. Ne peux-tu pas faire un peu plus? Pardon. Dieu. Cher ami, ne te trompe pas. Tu peux fournir un effort supplémentaire. Si tu rends visite à un pasteur dont le ministère échoue, dont le ministère échoue et dans la décadence, tu découvriras qu'il peut fournir lui aussi un effort supplémentaire. La plupart d'entre nous peuvent fournir des efforts supplémentaires. Un peu plus de prière, un peu plus d'efforts feront une grande. Pourquoi ne pas vous consacrer un peu plus de temps à l'étude de la Bible? Pourquoi ne pas consacrer un peu plus de temps aux objectifs spirituels? Jésus a demandé de fournir un effort supplémentaire. Malheureusement aujourd'hui, les gens ne le font pas. Les gens ne font même plus un kilomètre pour Dieu. Les gens n'aiment plus Jésus. Voilà. Je vous donne un rendez-vous ce samedi à 5h30. Et je vous demande de faire un don. Un don de votre présence, un don de votre temps, un don de votre argent. Peu importe le pays où vous êtes. Parce que ce culte médical va s'adresser à des milliers de familles pauvres. Je sais qu'au moment où je suis en train de parler, Satan vous dit, non, tu as trop fait. Je sais que tu as fait. Je sais. Mais tu peux faire un peu plus. Seigneur, sauve-nous de la tromperie de Satan. Satan, Dieu te réprime pour ce mensonge que tu verses dans le cœur des chrétiens de cette génération. Satan, que Dieu te réprime pour ce mensonge que tu verses dans le cœur des chrétiens de cette génération. Que Dieu te réprime. Que Dieu te réprime. Que Dieu te réprime, Lucifer. Que Dieu te réprime, démon de mensonge. Que Dieu te réprime, démon d'abandon. Que Dieu te réprime, Satan. Que Dieu te réprime pour ce mensonge que tu déposes dans les cœurs. Que Dieu te réprime pour cette tromperie. Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie Dieu que le Saint-Esprit brûle le mensonge que vous avez beaucoup servi Dieu et que vous devez vous reposer dans votre cœur. Que Dieu vous délivre de cela. Que la puissance de Dieu vous délivre de cela. Que Dieu remplisse votre vie de sa grâce. Que Dieu augmente votre foi. Que Dieu vous donne sa protection divine et que la guérison soit votre partage. Nous remettons les médecins, nous remettons les pasteurs, les hommes et les femmes de Dieu, nous remettons tous les membres, les chrétiens, les baptisés, les diacres, les anciens, les compagnons, nous remettons même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Nous vous remettons entre les mains de Dieu. Nous bénissons vos dons et nous bénissons vos prières. Nous savons qu'à travers vos prières, Dieu va sauver les gens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles de croissance à l'endroit où vous êtes. Que Dieu bénisse le travail que vous faites pour lui. Et que la soif de servir Dieu augmente dans vos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, et j'ai prié pour vous. Tu peux encore faire un peu plus. Je t'en supplie, un peu plus. Ce que tu as fait, tu peux recommencer. Un peu plus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter via WhatsApp au +241 62 90 45 46 et sur les réseaux sociaux, apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazabwa. Que Dieu vous bénisse.